autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour ouvrir les portes virtuelles d'une formidable bibliothèque, la Bibliothèque universelle des logiciels Software Heritage, soutenue par l'UNESCO, une initiative indispensable, une sorte de nouvelle et numérique bibliothèque d'Alexandrie, pour collecter, organiser, préserver, partager et rendre accessible à tous les codes sources de tous les logiciels disponibles dans le monde. Un projet pharaonique, pensée, conçue et coordonnée en réseau par Roberto Di Cosmo, chercheur en informatique, ardent défenseur de la diffusion des savoirs. Roberto Di Cosmo était notre invité le 3 septembre dernier pour le lancement de cette bibliothèque universelle des codes sources qui tisse désormais sa toile dans le monde entier pour mettre en commun ce patrimoine numérique de l'humanité, puisque nous sommes tous concernés et tous potentiellement contributeurs. Voilà pourquoi nous vous proposons de réécouter cet entretien autour de la question: pourquoi et comment partager nos logiciels en toute liberté? Bienvenue. Bonjour Roberto Di Cosmo.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chercheur informaticien, professeur à l'Université de Paris Diderot, détaché auprès d'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique, ardent défenseur des logiciels libres et de la diffusion de tous les savoirs. Vous êtes donc à l'initiative de ce fantastique projet de grande bibliothèque du code source, Software Heritage, inaugurée à l'UNESCO en juin dernier. La Bibliothèque d'Alexandrie des logiciels a pour mission de collecter, d'organiser, de préserver et de partager tous les logiciels disponibles. C'est une initiative formidable, assez monumentale. Comment vous est venue cette idée, Roberto Di Cosmo?
Tout d'abord, je voulais remercier beaucoup Caroline de m'accueillir pour parler de ces projets. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Et alors, pour comprendre effectivement comment cette idée est née, Faut que je vous dise, moi je suis un chercheur en informatique, je travaille avec des gens qui travaillent avec moi, comme Stefano Zacchirol et d'autres personnes de mon équipe, sur l'analyse et l'évolution des codes logiciels. Et il y a 4 ans à peu près, on avait commencé un certain travail d'analyse logicielle qui avait l'air de fonctionner plutôt bien. Et c'était naturel de se poser la question et de dire comment on peut faire ces travails-là sur tous les logiciels qui existent. Donc on a juste commencé à chercher en se disant, il doit bien y avoir un endroit dans lequel il y a bien tous les codes sources de tous les logiciels. Il y a sûrement quelqu'un qui a pensé. Et là, on a bien cherché par la droite, à gauche, on n'a rien trouvé. Et du coup, on a pris conscience d'un problème qui est quand même incroyable. C'est-à-dire, l'informatique est une discipline qui a changé, transformé, révolutionné notre monde. Il y a des logiciels partout. Ils sont nécessaires pour communiquer, pour transférer, pour acheter, pour s'entretenir, pour tout faire. Et ils sont assez récents. Ça fait une 50aine d'années que les logiciels ont commencé vraiment à transformer notre monde. Et pourtant, personne jusque-là s'est soucié de préserver ces nouveaux patrimoines des connaissances technologiques.
Un nouveau patrimoine de connaissances technologiques, rappelons qu'on va y revenir, mais que les logiciels, les tout premiers, sont toujours valables aujourd'hui, et qu'en plus, j'ai envie de vous poser la question pourquoi maintenant, mais parce que maintenant peut-être qu'on est à une période charnière justement entre les débuts de l'informatique et puis cette croissance exponentielle des logiciels.
Absolument. Donc là, quand on a commencé à regarder les sujets qui étaient immédiatement devenus passionnants quand on s'en est aperçu, on s'est rendu compte qu'on est à un moment vraiment charnière, un moment particulier dans l'histoire de l'informatique. Si vous regardez les premiers informaticiens un peu modernes, qui ont commencé à travailler avec des vrais ordinateurs, datent il y a un petit demi-siècle. Alors un petit demi-siècle, c'est beaucoup hein, pour la vitesse d'évolution de l'informatique, mais c'est très très peu par rapport à l'histoire d'une discipline. Et donc on a une opportunité unique de pouvoir encore parler à la plupart des gens qui ont écrit les premiers logiciels, qui savent comment les logiciels qui ont fabriqué Internet, qui ont fabriqué le web, qui ont fabriqué tout ça, ont été développés, pourquoi ils ont été faits de telle sorte. Et ces personnes sont encore vivantes.
Donc on peut aller les voir et on peut leur demander comment ils ont fait leur code et récupérer tous ces codes sources, c'est ça?
Exactement. Et donc ça, c'est une opportunité unique, parce que dans d'autres disciplines, je ne sais pas, en mathématiques, moi j'aimerais bien pouvoir parler avec Archimède et lui demander pourquoi il a fait les choses comme ça. Mais c'est un peu trop tard. Il y a 2000 ans qui s'est passé. J'aimerais bien parler avec Leibniz, avec Newton, avec Pascal. Mais c'est un peu trop tard. Ils sont déjà tous partis. Alors que dans l'informatique, l'essentiel des gens sont encore là. Donc il y a cette possibilité de tout récupérer. Et En plus, si vous regardez aujourd'hui, et on a des chiffres, on pourra regarder comment ça fonctionne, on voit que les développements logiciels explosent. Il n'y a jamais eu autant de logiciels qui sont développés. Donc, non seulement on peut récupérer les passés, mais on se trouve aussi dans une phase où il est vraiment nécessaire de construire une infrastructure de préservation pour s'assurer que demain, on ne devra pas faire un effort inhumain pour récupérer des choses qu'on perd. C'est chaque année qui passe, la quantité de logiciels préservés grandit et il faut s'y mettre tout de suite pour que la tâche ne soit pas infaisable.
Pour collecter ce qui est fait et ensuite pour pouvoir les relire, si j'ose dire, sur tous les supports, parce qu'il y a cette question-là aussi, évidemment.
Et voilà, et c'est très bien qu'on va parler de ça, parce que vous voyez, on peut se poser la question de savoir, mais d'accord, mais les logiciels, moi je ne suis pas informaticien, pourquoi ça devrait m'intéresser? Vous voyez, d'un côté, il faut savoir que les logiciels, ils arrivent en deux formes. Donc il y a les logiciels exécutables qu'on peut trouver sur son téléphone ou sur son ordinateur, qu'on utilise pour faire une tâche particulière, ça c'est bien. Mais ces logiciels exécutables-là, ils ne sortent pas d'un chapeau, ils ont été écrits. Et regardez, on utilise vraiment les termes « écrire » en logiciel. Ils sont écrits par des développeurs, par des êtres humains, qui peuvent être des développeurs, des ingénieurs, des chercheurs, des hobbyistes, des personnes qu'on a appris l'informatique tout seul, et qui écrivent ces logiciels dans ce qu'on appelle des langages informatiques. Mais ces langages informatiques et ces codes sources des logiciels sont une forme de connaissances spéciales parce qu'ils sont faits pour qu'un autre développeur puisse les lire, hein, parce qu'on a besoin de les modifier, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, et peut-être que la personne qui va les modifier, ça va être moi-même, donc j'ai intérêt que ça soit lisible. Hein. Et en même temps, ils sont suffisamment techniquement détaillés pour produire les exécutables qu'on utilise partout. Et donc, nous, on se focalise sur les codes sources. Et pourquoi les codes sources? Parce que justement, comme ils sont faits pour être lus par des êtres humains, ils ont la propriété qu'on pourra toujours les relire et comprendre ce qu'ils font, même quand les machines sous lesquelles ils peuvent s'exécuter n'existeront plus.
Autour de la question pourquoi et comment l'heure est venue de collecter et de partager tous ces codes sources de nos logiciels en toute liberté, petit rappel historique et chronologique de cette informatisation de notre monde, c'est le mix forcément codé et programmé par Hugo Violas.
Le premier programmeur au monde est une programmeuse. Et ça, c'est l'histoire d'Ada Lovelace. Elle s'est passionnée pour la machine analytique. Dans une de ses notes, elle décrit l'enchaînement d'instructions qu'il faut donner à la machine pour réaliser une suite mathématique. Mais pas seulement l'algorithme qui permet de réaliser cette suite. Elle décrit jusqu'à la position des rouages. Et ça, traduire un algorithme dans une séquence d'instructions qu'il faut donner à un ordinateur pour qu'il le réalise, c'est de la programmation informatique.
C'est incroyable ça!
Alors là, c'est un ordinateur qui ne peut rien faire comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une cassette et à partir de là, cette cassette contient des programmes pour l'ordinateur. Et vous avez vu, j'ai appuyé sur un bouton, j'appuie sur un autre bouton. Et maintenant, on va charger le programme.
Ah, vous êtes le nouveau prof d'informatique, c'est ça?
J'ai décidé de porter la liberté aux utilisateurs de l'informatique. Le but est d'éliminer le logiciel pas libre et de le remplacer par du logiciel libre. Le logiciel privateur ne doit pas exister.
Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Il n'y a pas un catalogue central de tous les logiciels. Nous utilisons tous plein de plateformes diverses et variées pour développer, pour distribuer.
C'est là, Alexandrie, qu'il met en place un projet qu'il a imaginé pour la Grèce, c'est-à-dire réunir tous les savoirs du monde au même endroit. Alors l'idée est magnifique, hein, il faut juste la réaliser.
Ouais, il n'y a plus qu'à réunir les gars maintenant.
Il n'y a plus qu'à Roberto Di Cosmo, enfin c'est vite dit, sauf que c'est un travail de titan, monumental. Est-ce qu'on peut avoir une idée, après ce résumé de l'informatique au cours de notre siècle? On a même entendu Richard Stallman, celui qui nous met en avant les logiciels libres. Est-ce qu'on peut avoir une idée du volume de données monstrueux que vous avez à traiter pour cette bibliothèque universelle des logiciels?
Oui, en réalité, effectivement, c'est une très bonne question. Il y a combien de codes sources logiciels informatiques qui extérieur. Alors, je peux vous dire déjà ce qu'on a trouvé, nous. Alors, au bout des 4 ans de travail, parce qu'on a quand même commencé à travailler un petit moment hein, pour construire l'infrastructure.
L'infrastructure de cette bibliothèque universelle des logiciels et commencer à les collecter, c'est ça?
Oui, exactement, on a commencé à les collecter. Parce que, soyez d'une certaine façon, on a besoin de construire une infrastructure, un énorme aspirateur qui se connecte aux différents endroits sur la planète dans lesquels on développe les logiciels, en particulier, en premier lieu, les logiciels libres, et qui les récupère avec toute leur histoire de développement. Donc, on sait en détail quelle ligne de code a été rajoutée par qui, à quel moment pourquoi. Donc ça, c'est vraiment qui est passionnant et fascinant. Et bon, là, aujourd'hui, on a déjà identifié plus de 80 millions d'origines à partir desquelles on récupère ces logiciels. Et après, en regardant ce qu'il y a là-dedans, on a trouvé plus de 4 milliards et demi de fichiers sources, tous différents. Parce qu'un même fichier source peut être utilisé à plusieurs endroits, mais donc nous, on les garde qu'une seule fois. Et donc, il y a plus de 4 milliards et demi de fichiers sources, tous différents, qui ont été développés avec dans notre bibliothèque, si vous regardez, le logiciel plus ancien date des années 70, voire un peu avant, et le logiciel plus moderne date peut-être d'hier. D'accord ? Parce qu'on collecte pas seulement les passés, mais aussi tout ce qui se développe aujourd'hui.
Vous m'avez montré sur votre ordinateur tout à l'heure le code source d'Apollo. Incroyable, avec des commentaires en plus,
Roberto
Di Cosmo.
Absolument. Regardez, dans cette énorme bibliothèque, on trouve des vrais trésors. Un de ces trésors que j'adore particulièrement, c'est le code source du système de commande de l'Apollo 11, qui a plusieurs particularités. Tout d'abord, parce qu'effectivement, là, on a mentionné Ada Lovelace, mais là, la personne qui a piloté l'équipe, qui a développé ces logiciels, s'appelle Margaret Hamilton. C'est une dame
incroyable.
Une femme informaticienne qui a 82 ans aujourd'hui. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois lors d'une conférence internationale. Elle est toujours aussi brillante, aussi géniale qu'est-ce qu'elle était à l'époque où elle a développé ces codes-là. Et donc, on trouve des vrais trésors. Ce que vous voyez à l'époque, pour l'ordinateur de l'Apollo 11, c'était un ordinateur qui était très avancé pour l'époque, mais qu'on programmait avec des langages informatiques qui étaient très, très, très bas niveau, très proches de la machine. Donc, on souffrait beaucoup pour programmer tout ça. Et donc, on mettait énormément des commentaires. Les commentaires sont faits pour des êtres humains, pour leur dire, regarde, l'instruction suivante va faire telle ou telle autre chose. Et ce qu'on a regardé ensemble tout à l'heure, justement, il y avait un fragment du programme d'allumage des réacteurs de l'Apollo 11 qui est développé d'une façon un peu particulière. Du coup, les commentaires des développeurs sont géniaux, parce qu'il y a un des développeurs qui écrit, reprend l'ancienne devise « On y soit qui mal y pense », c'est-à-dire on est pensé pas mal si on l'a codé comme ça, on n'avait pas moyen de faire mieux. Et plus tard, un latin qui écrit « Non, il s'étendre » n'est pas touché si vous ne savez pas ce que vous faites. Ça, c'est une partie qui est super délicate dans les programmes
oui,
de l'Apollo 11.
Que ce soit pour Apollo ou que ce soit pour les commandes d'un avion, vaut mieux pas toucher au code source.
Il ne vaut pas tout toucher si on ne sait pas ce qu'on fait. D'accord, il faut un peu regarder. Et donc, on peut encore relire tout ça. Et donc, en relisant ces codes, on voit vraiment une histoire passionnante. Et vous voyez, les instructions pour l'ordinateur vont finir à l'ordinateur, mais les commentaires, ils ne disent rien à l'ordinateur, ils nous parlent à nous et ils nous racontent une histoire humaine. L'histoire de l'informatique est une histoire d'êtres humains, d'hommes et des femmes qui ont travaillé ensemble, qui ont passé les nuits, des jours, des passions pour construire cette infrastructure technologique qui change le monde d'aujourd'hui.
Qui change le monde d'aujourd'hui. Voilà, vous voulez construire cette histoire et vous nous montrer aussi que ces logiciels, ces codes sources, sont quoi ? Des sortes d'objets vivants, enfin, sur lesquels on peut travailler aussi aujourd'hui encore.
Absolument. Et vous voyez, donc, c'est tout à fait ça. C'est important de comprendre que les codes sources des logiciels sont des objets nobles. Ce sont des créations de l'esprit humain, sont développés par des êtres humains. Et maintenant, comme la complexité technologique grandit énormément, très souvent, c'est des gros logiciels, prenez les navigateurs Internet comme Firefox, prenez des systèmes de bases de données comme PostgreSQL ou d'autres, du traitement d'images comme GIMP. Ce sont des logiciels qui font des centaines, des milliers, voire des millions de lignes de code et pas une seule personne peut se permettre d'écrire tout ça tout seul. Donc, on l'écrit de façon collaborative et on travaille ensemble sur cet objet, sous des plateformes qu'on appelle souvent des forges logicielles pour travailler ensemble. Et c'est fascinant parce que vous voyez, par exemple, si on doit comparer avec de la littérature, vous voyez, les codes sources, on l'écrit comme on écrirait un texte. Et là aussi, c'est important de savoir pourquoi tel texte a été écrit de telle façon. Alors, dans notre approche traditionnelle en littérature, d'abord on sélectionne des livres qui sont importants, et une fois qu'on a trouvé un livre qui est important, moi je sais pas, des Zola, des Hugo, on passe des nuits, des semaines, des années avec des étudiants dans les bibliothèques à cherchant les lettres, les notes, les brouillons de ces
écrivains.
Comment
ils ont écrit ces chefs-d'œuvre ?
Ils ont décidé d'écrire comme ça, etc. Alors, dans les mondes de l'informatique, pour les besoins de l'informatique, nous on garde la trace de tous ces développements au moment où on développe. Du coup, il y a peut-être des logiciels qui ne sont pas très intéressants, là, ce n'est pas très grave, mais quand on a un logiciel intéressant, on a toute cette trace. Et donc, nous gardons non pas seulement les codes sources, mais aussi toute la trace des développements.
La trace humaine derrière. On reconnaît bien l'humaniste et informaticien que vous êtes, Roberto Di Cosmo, et vous avez choisi évidemment d'écouter Birdie sur RFI, People Help the People.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made this adventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lies. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh,
sur RFI, People Help the People, c'est votre choix. Roberto Di Cosmo, et pour cause, l'entraide, le partage, c'est la source même de cette bibliothèque universelle des codes sources.
Vous avez raison, Caroline, c'est un de mes moteurs intérieurs depuis très longtemps, c'est-à-dire à la fois comme enseignant en informatique, comme professeur d'université, comme chercheur, ma mission a toujours été de partager à la fois la connaissance et la passion pour la connaissance. Il ne suffit pas juste de partager les notions, il faut aussi partager la passion. Et donc là, c'est une vraie passion de partager un peu cette histoire de l'informatique, parce que, vous voyez, autant la plupart des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas directement capables de lire un programme informatique aujourd'hui, autant dans quelques années, et vous voyez, c'est le travail qu'on fait, c'est sous les longs termes, la plupart d'entre nous seront capables de lire un peu les codes informatiques de la même façon que la plupart de nous sont capables, je veux dire, de faire un peu des maths, de faire un peu d'histoire, de faire un peu des philosophies, parce que petit à petit l'informatique rentre dans les écoles. Donc on construit cette infrastructure pas seulement pour aujourd'hui, mais vraiment pour les futurs,
aussi pour les générations futures, hein, pour qu'ils soient capables de revenir à la source justement de tous ces logiciels que nous utilisons, et pour les générations futures, sur tous les coins de la planète, parce que vous qui êtes très sensible à ces questions de partage, de transfert, de diffusion des savoirs, comment faire pour que cette bibliothèque universelle des logiciels puisse être accessible à ceux qui en ont le plus besoin, et je pense notamment au Grand Sud, à nos auditeurs sur le continent africain, en Amérique latine, ailleurs que là où on pense qu'ils sont fabriqués, ces logiciels. Ouais,
effectivement. Et ça, c'est vraiment la question de l'université. Un des aspects magiques de l'information, de l'informatique, de l'Internet d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, une infrastructure comme celle-ci, peu importe où elle est fabriquée, et elle peut rendre un service à tout le monde sous la planète. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des tuyaux, des fois, qui ne sont pas si grands que ça. Donc, c'est très important qu'il n'y ait pas une seule copie de cette bibliothèque. Nous construisons ici à Paris ces projets magnifiques des Software Heritage. Mais dès le départ, dans notre tête, il y a eu cette idée de faire en sorte qu'à terme, on arrive à avoir un grand réseau international des miroirs pour faire en sorte qu'il y ait une copie de tous ces contenus à différents endroits sous la planète. Alors pourquoi ? Pour rendre plus facilement accessible dans l'endroit où on se trouve, et aussi éventuellement pour adapter la présentation aux besoins des différentes personnes. Il y a des gens qui veulent faire des recherches très avancées sur les contenus, ils ont certaines infrastructures, d'autres qui veulent juste les réutiliser, sont ailleurs. Et il y a aussi un autre aspect, et on veut aussi, je vous disais tout à l'heure, 80 millions de sources logicielles. C'est énorme. Comment chercher dedans ce qui est intéressant ? Donc là, on essaye de nouer des partenariats avec des équipes de recherche, avec des entreprises, par exemple avec Quant récemment, temps pour construire un moteur de recherche qui soit adapté au code source, qui facilite l'accès au contenu pour tout le monde.
Pour tout le monde, et qui permettent aussi, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce sont les questions de science ouverte, que tous les chercheurs aient accès à cela. À ce sujet, je vous propose, Roberto Di Cosmo, d'écouter l'éclairage d'un chercheur camerounais, Thomas Hervé Mbohan-Koudou. Il est doctorant en communication publique à l'Université de Laval, au Québec. Il est président de l'APSOA, l'Association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Il a beaucoup travaillé sur toutes ces questions de libre accès, sur les obstacles aussi à l'adoption de la science ouverte par les étudiants africains. Il réagit depuis Yaoundé au Cameroun à la création de cette bibliothèque universelle des codes sources de logiciels.
En fait, pour moi, ça a toujours été très important, cette idée d'ouverture et de partage de l'information et du code source ou des designs qui existent, parce que en tant qu'Africain et pensant à partir de l'Afrique, je dirais que c'est une grosse chance pour nous de pouvoir avoir accès à toutes ces données de façon libre et de façon ouverte. Parce que ça nous permet de contourner un certain nombre de barrières, notamment financières. Pour moi, c'est d'une importance capitale d'avoir accès au code.
Vous avez même mené une enquête sur les obstacles finalement à l'adoption de l'open science, notamment chez les étudiants en Afrique, en Haïti. Quels sont ces obstacles?
En fait, le projet SOA est né d'un financement du CRDI Canada qui visait justement à documenter l'invisibilité des chercheurs d'Afrique francophone et haïtien sur le web scientifique. Et on se posait la question de savoir pourquoi, avec tous les outils open qui existent aujourd'hui, ces Africains et Haïtiens sont toujours autant absents sur la scène internationale du savoir. Alors on a mené cette enquête-là qui nous a amené vers 9 injustices cognitives. Nous les avons appelées des injustices cognitives. C'est-à-dire des obstacles qui nous empêchent de penser en tant qu'Africains, parce qu'elle n'est pas forcément liée à nous, elle est quelquefois liée à la barrière linguistique, elle est liée à la barrière infrastructurelle, elle est liée à la barrière pédagogique. Et il y en a 9, en tout cas. Nous avons fait sortir tout un livre là-dessus avec mes collègues.
Et vous avez l'impression que, justement, ces bibliothèques universelles du code source, cette manière de partager le patrimoine logiciel de l'humanité, ça peut être particulièrement utile pour lever ces obstacles, ces injustices cognitives pour les chercheurs africains ou pour les étudiants africains et haïtiens?
C'est déjà un bon début. Mais il faut se poser la question de savoir aussi dans quel sens, parce que le libre accès et l'ouverture aussi est un couteau à double tranchant. Hein? Parce que s'il faut faire un peu une écologie du savoir sur le web, on se rend compte que la majorité des savoirs disponibles proviennent d'une région du monde, notamment le Nord. Il faut donner aux Africains, donner aux universités africaines, aux institutions supérieures africaines, les infrastructures qui permettront aux chercheurs africains ou bien aux savants africains de générer la connaissance endogène, quoi.
Merci infiniment. On va en reparler avec vous certainement sur notre antenne. Thomas Hervé Mbohan-Koudou, est-ce que vous auriez, pour terminer, une question à poser à notre invité en studio avec nous, Roberto Di Cosmo?
Je ne sais pas quelles mesures ont été prises au niveau local, parce que l'UNESCO quand même a une puissance politique qui peut facilement faire avancer les choses au niveau africain. Donc, j'aimerais bien savoir, in situ, au niveau du Cameroun ou au niveau d'autres pays africains, quelles sont les dispositions qui ont été prises. Parce qu'il est aussi vrai que l'UNESCO, en tant que force politique, peut-être va s'arrêter au niveau étatique, au niveau exécutif, mais l'information n'arrive jamais où ça devrait arriver, c'est-à-dire au niveau des étudiants, par exemple, qui, pour moi, est la force qui va faire changer les choses. Donc, lors de sa présentation, il nous fait part un peu des dispositions prises pour que l'étudiant, qui n'est pas le neveu de tel ministre ou ceci, soit autant informé, autant impliqué dans la chose. C'est compliqué comme question, mais c'est nos réalités.
Que pouvez-vous répondre, Roberto Di Cosmo, à cette question compliquée, mais bien réelle, de Thomas Hervé Mbohan-Koudou au Cameroun?
Bah, effectivement, donc, il a soulevé tout un tas de questions, donc j'aimerais bien les reprendre dans un autre ordre.
Volontiers.
Tout d'abord, ce qu'on appelle la science ouverte aujourd'hui, m'appelle une petite réflexion. Vous voyez, moi, à l'époque où j'ai été étudiant, par exemple, je n'aurais jamais pensé à de la science fermée. Bon, la science était naturellement ouverte. J'ai étudié à Pise, qui était la patrie de Galileo Galilei, qui est celui qui a créé la méthode scientifique. C'est ce qu'on dit, nous, en Italie. Évidemment, je sais bien qu'en France, on dit autre chose, mais bon, l'important, c'est la méthode scientifique. Et c'est là, et une partie essentielle de la méthode scientifique, c'est la capacité pour d'autres de vérifier indépendamment ce que nous avons trouvé, nous, dans notre recherche.
Donc la science, pour vous, était essentiellement, c'était fondamentalement ouverte.
Fondamentalement ouverte, parce que sinon, ce n'est pas de la science. Comme disait Karl Popper, qui était un épistémologue très influent au début du siècle passé, les occurrences non reproductibles n'ont pas d'intérêt pour la science. Donc c'est nécessaire de pouvoir reproduire ces connaissances. Pour reproduire ces connaissances, il faut regarder les mondes d'aujourd'hui, qui est un monde beaucoup plus complexe que celui de nos ancêtres il y a 4 ou 5 siècles. Vous avez des articles scientifiques qui décrivent ce qu'on a trouvé quand on fait de la recherche. Mais très souvent, aujourd'hui, quand vous regardez ces articles, cet article vous dit que vous avez analysé un certain nombre de données, un certain jeu de données, que vous avez fait un certain type de calcul et que ces calculs ont donné un certain résultat, qui est le résultat scientifique. Je ne sais pas, par exemple, 42. Si vous avez seulement l'article, vous n'avez pas les données, vous n'avez pas les logiciels avec lesquels on fait les calculs, comment je peux bien vérifier, moi, que le résultat est bien 42 et comment je peux jouer avec pour apprendre des choses nouvelles, changer un peu les données, voir si les résultats restent toujours 42 ou si c'était un hasard, etc. Donc, c'est vraiment nécessaire de rendre les articles scientifiques librement accessibles. Et là, il y a une véritable barrière entre les Nord et les Sud qui vient du modèle des publications scientifiques actuelles qui est complètement inadapté au mode de transmission moderne dans lequel Internet permet de rendre les choses disponibles immédiatement et alors qu'on a bloqué tout ça derrière des barrières financières sur lesquelles il faudrait passer une émission entière.
Oui, il faudrait passer une émission entière. Rappelons quand même que vous êtes un ardent défenseur des logiciels libres
et de
l'open access et que vous avez tout de suite senti ces obstacles, ces dangers, cette fermeture qui est vraiment une fermeture, on va dire quoi, économique, du savoir, enfin qui est vraiment, on a fermé un outil qui était totalement ouvert,
qui était censé être ouvert. Si vous voulez, pour résumer en quelques lignes ma vision, ce qui s'est passé, je suis suffisamment âgé pour avoir vécu la période avant Internet. Donc avant Internet, les mécanismes les plus efficaces pour diffuser les savoirs, c'était effectivement de publier dans des journaux papier qui après étaient redistribués dans toutes les bibliothèques sur le monde. Il n'y avait pas d'autre solution.
Or aujourd'hui avec Internet,
cette façon de fonctionner est complètement obsolète. On peut aller beaucoup plus vite, mais vous voyez, avant, l'économie d'avant Internet est une économie dans laquelle tout le monde trouvait son petit bénéfice. Donc les chercheurs, ils trouvaient la façon plus efficace de distribuer. Les bibliothèques, ils avaient une façon de dupliquer les choses à un coût pas trop élevé. Les éditeurs, ils se rémunéraient à côté. Aujourd'hui, dans un monde dans lequel le travail habituel des éditeurs n'a plus d'essence. Donc il faut distribuer beaucoup plus facilement, plus rapidement. Mais on a entre-temps des entreprises milliardaires qui existent et qui freinent, évidemment. Donc là, il y a un changement de modèle économique et ces changements-là n'a pas été complètement maîtrisé.
Et en même temps, vous, qui êtes un ardent défenseur de l'open access, des logiciels libres, pour monter cette extraordinaire bibliothèque universelle du code source, donc pour collecter et partager cette science informatique, vous avez fait une fondation. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Certains de vos ennemis, entre guillemets, des GAFA, Microsoft, des grosses entreprises informatiques qui, au départ, voulaient tout fermer et qui, en fait, se rendre compte que ce n'est pas possible.
Et là, si vous voulez, c'est quelque chose de fascinant. Vous avez raison de le rappeler. Donc, il y a 20 ans, j'avais écrit un livre qui était un peu vitriol sous Microsoft. Mais vous savez, des fois, on dit quand les sages indiquent la lune, les sots ne voient qu'un doigt. Donc, à l'époque, moi, j'étais très énervé contre un monopole complet sous la chaîne de l'information. Et il arrive qu'il y a 20 ans, les monopolistes sous la chaîne de l'information s'appelaient Microsoft.
Si vous regardez, aujourd'hui, c'est les GAFA.
C'est pas tout à fait les mêmes. Donc, ça ne suis pas très surpris de voir Microsoft qui revient plutôt parmi nos soutiens. Je ne dis pas que tout est blanc, mais quand même, le monde a pas mal changé. Et effectivement, donc on a besoin de contribuer à ces partages et à connaissance. Je reviens sur la partie science ouverte. Donc, c'est important de partager les articles, c'est important de partager les données. Et jusque-là, on avait un petit peu oublié que c'est bien d'avoir l'article et les données, mais si on n'a pas les logiciels avec lesquels on a fait les analyses, on est toujours incapable de reproduire les résultats scientifiques. Et donc, ce qui apporte Sorteur Héritage dans cet éclairage-là, c'est une plateforme internationale pour partager les codes sources des chercheurs, des recherches. Et avec ça, on commence à travailler avec le ministère de la Recherche ici en France, on commence à collaborer avec des entités internationales parce que c'est la même infrastructure qu'on utilise aussi pour le patrimoine culturel, c'est le même tuyau, mais qui a une finalité importante pour le partage des connaissances.
Et qui pourra donc être partagé sur la planète entière, dans le monde entier, et réduire cette injustice cognitive dont parlait notre chercheur camerounais.
Mais il y a une autre partie dans l'injustice cognitive dont il parle, c'est effectivement le fait qu'il faut exposer plus souvent les chercheurs des pays émergents à des modèles, des connaissances et à des modèles économiques plus avancés, qu'on sait sur lesquels on commence à travailler maintenant. Voilà, je reviens sur votre question sur Microsoft. Par exemple, Microsoft, Oracle, ces entreprises-là, il y a 20 ans, n'est juré que pour des logiciels propriétaires fermés. Et maintenant, si vous regardez 20 ans après, petit à petit, ils sont en train de prendre un énorme tournant et s'investir de plus en plus dans le développement des logiciels libres. Contribuant en logiciel libre, donc l'année passée, Microsoft était le premier contributeur en logiciel libre sur la plateforme la plus connue qui s'appelle GitHub. C'est étonnant, mais en réalité c'est aussi naturel, parce que la complexité des logiciels grandit à telle vitesse qu'on ne peut plus se permettre de tout refaire tout seul, et qu'il est nécessaire d'avoir des ingénieurs et des personnes qui connaissent bien ces logiciels, et la meilleure façon de les connaître, c'est pouvoir mettre les mains dans les codes sources. Vous vous rappelez, c'est les codes sources qu'on peut lire en étant
donc mettre les mains dans le cambouis du code source, en fait, ouvrir le capot de la machine.
Ouvrir les capots de la machine. Et donc, petit à petit, les gens sont en train d'émigrer dans cette direction, et c'est un des mêmes mouvements que vous voyez aussi dans ces moments des sciences ouvertes. On se rend compte que c'est important de partager parce que quand on s'en construit plus, on va plus loin. Ce qui n'enlève rien à la difficulté après de valoriser la recherche scientifique, mais ça c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet autour de la question comment partager nos logiciels en toute liberté. On s'interroge depuis la Jamaïque sur l'importance de partager avec Capleton sur RFI, Never Share, ça c'est politique.
They will never share, that's why I have to burn them. Burn them, oh yeah. And they will never care, that's why I have to burn them. Burn them, oh yeah. And they will never hear, that's why I have to burn them. Burn them, oh yeah. And I will never swear, but I will still burn them. Alright, but tell them, say, yo, Babylon, not tell we about them, care about we lifestyle. And not tell we say them have plans to we child. But say everything pretty, and of them alone a smile. So them a fight over uranium and oil. I want the people blood to run like a aisle. Now make them press your heavens and send you for miles. This a lot say I'm an angle, love them style. And we alone a work, and we alone a tile. And of them alone sit up and a spin a lot the kyle. But make sure you don't have no plan for my Nile. And make sure you don't want for this destroy the soil. And put in at the lake of fire and tell yourself a boil. Wow, they will never share. That's why I like to burn them. Burn them, oh yeah. They will never care. That's why I love to burn them. Blaze them, oh yeah. And they will never hate. And I have burned them. Burn them, oh yeah. And they will never care. But me still I burn them, wow. All right then, yo.
Capleton sur RFI, Never Share. Et si on partageait justement Roberto Di Cosmo, nos logiciels et nos codes sources dans cette formidable initiative que vous avez lancée, Software Heritage, la bibliothèque universelle, la bibliothèque d'Alexandrie des logiciels. Au fond, c'est un peu la question des communs, du patrimoine commun que vous relancez là. Je ne sais pas si c'est une forme de résistance, mais en tout cas, c'est une manière d'organisation de nos communs et de ce nouveau patrimoine commun de l'humanité.
Absolument. Et donc, dans les cas des logiciels, sur les cas des logiciels, est vraiment fascinant. D'un côté, parce qu'ils sont relativement récents. De l'autre côté, parce qu'ils ont changé toute notre vie. Et de l'autre côté, parce que si vous regardez comment même les modèles économiques dans le monde de logiciels ont évolué avec l'arrivée du logiciel libre, on est en train d'apprendre petit à petit, hein, ça prend du temps. La définition du logiciel libre de Stallman date des années 80, donc on a une petite trentaine d'années de recul, hein, pas plus. Mais ça change vraiment et on se rend compte que des fois, il y a des biens communs qu'il faut nourrir et que les modèles économiques vont être construits au-dessous. Et pas en violant les biens communs, il faut quand même les soigner.
Et donc ça veut dire qu'il faut réfléchir après, il faut vraiment changer de regard
et
commencer par voir ce qui se passe et réfléchir ensuite quel modèle économique approprier à ces logiciels libres, à cette ouverture.
Vous savez, dans l'histoire de l'informatique, ça serait long à expliquer, mais disons les dernières 40 années de l'histoire de l'informatique ont été construites sur un modèle économique qui était basé sur la notion des ventes des licences. qui est une façon très bizarre de créer de la rareté. C'est une licence, c'est juste autorisation et faire une copie d'un logiciel qui existe déjà, qui a déjà été développé. Alors qu'en informatique, il n'y a rien de plus facile que de faire une copie d'un logiciel et la copie est exactement identique à l'originel, comme dans tout le patrimoine immatériel.
C'est-à-dire que oui, le modèle économique n'est absolument pas adapté.
C'est pas là qu'il y a la rareté. La rareté, c'est la capacité de créer, de modifier, d'adapter, d'évoluer, d'installer, de tester, de fabriquer, de former, etc. Il y a plein d'autres raretés. C'est autour de ça qu'on construit des modèles économiques beaucoup plus avancés, beaucoup plus modernes, beaucoup plus efficaces aujourd'hui. Mais ça demande vraiment un changement copernicien hein, des regards sur les modèles économiques.
À propos de ce changement de regard, et puisque nous sommes une émission de science, on le sait bien, la science elle avance beaucoup plus par collaboration qu'autre chose, mais enfin le fil est un peu tendu entre compétition et collaboration en science. À ce sujet, je vous propose un nouvel éclairage de chercheur, c'est celui du démographe François Héran, professeur au Collège de France sur la chaire Migration et Société.
Ma position, elle a toujours été d'ouvrir les données le plus possible. Alors effectivement, il y a un problème de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que des gens qui se sont fatigués à répondre à des appels d'offres internationaux extrêmement complexes, qui ont eu du mal à nettoyer les données, c'est un gros travail, méritent effectivement pendant quelques mois d'avoir une priorité sur l'exploitation des données, mais enfin, cette durée de qui leur est accordée ne doit pas dépasser 6 mois, peut-être 1 an dans certains cas, et au-delà de ce délai, il faut vraiment que les données d'enquête, alors là je parle des données d'enquête, qui est un domaine que je connais bien, soient ouvertes, soient accessibles. Et c'est important pour 2 raisons, parce que d'une part, c'est de l'argent public la plupart du temps, et donc il faut que toute la communauté puisse en profiter. Et de l'autre, il y a un grand principe en science, c'est que c'est la réplication des expériences. Il faut que, à partir d'une même donnée, une autre équipe ait la possibilité de refaire des calculs, d'appliquer d'autres modèles, d'autres pour vérifier si on obtient ou pas les mêmes résultats. C'est absolument fondamental que une expérience scientifique, et une enquête est une expérience, puisse être répliquée librement. Sans quoi il n'y a pas de science. Donc voilà. Mais c'est vrai que la propriété intellectuelle, dans certaines limites, doit aussi bien sûr être respectée.
Est-ce qu'on peut justement respecter cette propriété intellectuelle en science quand on monte comme vous, quand on collecte comme vous, quand on organise comme vous, Roberto Di Cosmo, une bibliothèque universelle du code source en marche, enfin, qui fonctionne hein, pour les codes sources actuels aussi?
Oui, effectivement, c'est une question qu'on s'est évidemment posée au moment de la création du projet. Est-ce que dans les cas, vous voyez, Software Heritage, les titres de Software Heritage, c'est vraiment Software Heritage, on donne tout notre patrimoine logiciel, tout, y compris les logiciels qui sont potentiellement, mais non, encore couverts par des propriétés intellectuelles particulières, des droits d'auteur qui empêchent de les distribuer. Donc, c'est posé la question de comment faire. Et finalement, si on veut tout collecter, on a regardé et effectivement, il y a 2 types de difficultés. Il y a des difficultés techniques, c'est-à-dire il y a des logiciels qui sont difficiles à trouver et des logiciels qui sont faciles à trouver. Dans les logiciels plus faciles à trouver, c'est ce qu'on retrouve sur Internet. Plus difficile à trouver, c'est qu'on retrouve dans des tiroirs, dans des cartes perforées des années 50 ou aller voir sur un disque qu'on n'arrive plus à relire. Donc il y a ces difficultés-là.
Et après, ça, c'est des difficultés techniques, mais il y a des difficultés juridiques.
Mais il y a des difficultés juridiques. Donc évidemment, il y a tout un énorme pan des logiciels. La plupart de ce qu'on a, c'est dans cette catégorie, qui ont des licences, des droits d'auteur qui permettent de les copier, de les rendre disponibles. Donc là-dedans, vous avez logiciels libres, mais aussi d'autres types de logiciels. Et après, vous avez des logiciels qu'on appelle propriétaires, dans lesquels on vous empêche d'avoir accès aux codes sources. On ne peut pas les lire, on ne peut pas les copier, on ne peut pas les réutiliser. Mais on aimerait bien avoir ça aussi.
Et vous allez pouvoir l'avoir, on pense à certaines grosses entreprises, Apple pour ne pas les citer, qui sont quand même parmi les plus fermées du monde.
Mais là, vous voyez, donc là, effectivement, on met en place des stratégies, et ça c'est un peu la complexité de tous les projets qu'on mène, qui n'est pas seulement une complexité technique. Donc pour tout ce qui est ouvert, facilement accessible, on veut tout automatiser, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour les choses qui sont couvertes encore par tout droit d'auteur, on a besoin de parler avec les gens qui ont cette propriété et de les convaincre petit à petit de les rendre disponibles.
Et donc là, l'importance de ce patrimoine de l'humanité et de pouvoir le relire, s'en servir, le réutiliser, le développer autrement ensuite.
Faire en sorte qu'au moment où il n'y a plus la nécessité impérieuse de maintenir les codes sources secrets, pour des raisons business ou pour les raisons qui viennent d'évoquer votre invité maintenant, qui est l'effet que pendant une période, on a besoin de les garder, je ne dis pas, allez, secrètes pour les temps d'y travailler correctement des sons. Une fois que ce besoin est disparu, il faut que les codes soient disponibles. Alors là, c'est un travail énorme qu'on essaye, alors on ne le mène pas nous directement, mais on travaille avec des entités comme le Computer History Museum ou d'autres qui vont faire un travail vraiment ponctuel d'aller discuter avec les entités et les entreprises pour les rendre ces codes disponibles. Et une fois que les codes sont devenus disponibles d'un point de vue juridique, nous, on va l'insérer dans cette bibliothèque pour que tout le monde puisse avoir accès. Et ce qui est important, et de cette bibliothèque-là, de ce qu'on est en train de construire maintenant, la différence avec les réseaux de bibliothèques traditionnels, c'est que même si on veut que notre bibliothèque soit répartie un peu sur toute la planète, on veut que l'interface pour les utilisateurs soit toujours la même. C'est-à-dire qu'on puisse trouver les mêmes catalogues, qu'on puisse utiliser les mêmes outils de recherche pour tout retrouver à l'intérieur.
Où qu'on soit sur la planète.
Et peu importe à quel miroir on puisse se connecter pour donner une vision uniforme de l'ensemble du développement.
Autour de la question comment partager nos logiciels en toute liberté, allez, un petit clin d'œil à votre Italie natale, Roberto Di Cosmo. Entre tradition et extrême modernité, puisqu'on est dans le patrimoine, du côté des Pouilles, quand la tarentelle est revisitée électro par le groupe Mascaremeri.
La donna me promise le quattro ore, io lo meschino me me misimo a dormire. Quando mi dici dai, passerà ne nove. Pensa se persi tempo, mo pure all'uvistire. Nanti la porta fui, e lo mio amore. E come pente mia, fammi trasire. Ibra mi disse vane, via l'acqua casta che ove. Cinca madonna mo, mo non pensamo a dormire.
Rimiri sur RFI, quand la tarentelle, danse traditionnelle des Pouilles, nous met en transe électro sur RFI. Nous sommes en votre compagnie, Roberto Di Cosmo, autour de cette bibliothèque universelle des logiciels. Là aussi, on est quand même entre tradition et modernité, parce que l'analogie avec la bibliothèque d'Alexandrie, elle a vraiment quelque chose à voir. Vous l'avez dit au début de cette émission, nous sommes dans une période charnière où l'on peut retrouver, collecter, faire parler les premiers informaticiens, collecter tous les codes sources. Mais la démarche fait aussi que vous devez parler à des informaticiens, à des bibliothécaires, à des industriels. On a parlé de codes sources ouverts, open source. Finalement, c'est extrêmement large, mais il y a un lien entre ce qui se passait autrefois à Alexandrie et ce qui se passe aujourd'hui dans votre software héritage.
Oui, effectivement, c'est bien de revenir sous l'analogie de la bibliothèque d'Alexandrie. Je l'aime beaucoup parce que vous voyez, très souvent, les gens pensent à la bibliothèque d'Alexandrie comme un endroit mythique qui malheureusement a brûlé. Alors nous, on va essayer de faire le maximum pour que la nôtre ne brûle pas. Vous voyez, on essaie de
vous
faire
des copies partout dans le monde.
Voilà, ça s'assure que si une copie brûle, elles restent quand même là. Mais de l'autre côté, peut-être une image que les gens n'ont pas, c'est qu'à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie, ce qui passait vraiment, c'est qu'il y avait des savants qui étaient dispatchés aux quatre coins de la planète pour aller chercher les nouveautés, les papiers les plus importants, les copier, les ramener à cet endroit unique. Et c'est ça l'analogie que j'aime bien, parce qu'en réalité, on construit cet endroit dans lequel on rapatrie les nouvelles connaissances, les nouveaux codes sources qui sont développés un peu partout. Ça, c'est un peu les rêves, avoir cet objet central, unique, mais qui est juste un archive, d'accord, pour développer. On les fait ailleurs, mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, d'intéressant qui est développé, il faudrait qu'il arrive très rapidement dans cet endroit central où on peut chercher, on peut observer. Si on sort des grandes infrastructures, un grand télescope qui nous permet d'observer la galaxie des logiciels et du développement des logiciels.
La galaxie du savoir. Vous avez parlé d'utopie, Roberto Di Cosmo. En même temps, c'est une utopie que vous êtes en train de réaliser, mais c'est compliqué. Enfin, il faut du financement, c'est un projet très complexe. Vous-même, vous y passez votre vie, vos jours et vos nuits, et vous n'êtes pas le seul. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre des industriels, des informaticiens, des bibliothécaires, pour rassembler tout ça, pour monter ce projet? Et qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui?
Voilà, c'est... merci, super. Effectivement, au moment où on a trouvé l'opportunité de créer ces projets-là, c'était tellement passionnant qu'on pouvait pas, on ne pouvait pas ne pas y aller. Donc, il fallait absolument y aller. Mais comment faire? Donc, comment démarrer quelque chose comme ça? Alors, c'était clair qu'à long terme, ce qu'on veut créer, c'est une fondation internationale indépendante qui a comme seule et unique mission de maintenir cette infrastructure au service de tout le monde. Donc, ce n'est pas une start-up, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un projet de recherche qui dure 4 ans et après, on passe à autre chose. C'est vraiment, vous pouvez imaginer ça comme la création des réseaux des bibliothèques publiques à l'époque de Thomas Jefferson aux États-Unis. On est vraiment à cette époque-là. Non, c'est passionnant, mais alors, comment démarrer? Alors là, je dois dire que j'ai eu, ou on a eu, tous les gens qui sont passionnés avec les projets, énormément de chance jusque-là. Donc, la première chose, ça a été rencontrer l'INRIA. Vous savez, moi, je suis professeur à l'Université Paris-Diderot, mais j'ai rencontré l'INRIA, qui est l'Institut National de Recherche en Informatique. J'ai rencontré son PDG, Antoine Petit, qui aujourd'hui est président du CNRS. Et au moment où il a soumis ses fonctions, je lui ai proposé cette initiative en disant, l'INRIA, s'il veut avoir un impact sur la société, ça, c'est une piste. Et là, il a eu la capacité de décision, que je ne saurais jamais comment le remercier assez, de décider d'y aller. Après, avec évidemment toute l'évaluation.
C'est monstrueux, c'est énorme,
avec,
mais on y va.
Toute l'évaluation qu'il faut, etc. Et effectivement, après, avec des moyens qui ne sont pas grands comme les grandes entreprises. Donc ça, c'était la première étape pour donner un socle qui est stable. Mais dès le départ, la mission était de réunir autour de cette mission les maximums des partenaires. Parce que vous savez, pour avoir du succès à long terme, il faut trois éléments essentiels. D'un côté, la bonne science, la bonne technologie. Donc, être en relation avec l'INRIA et avec les autres académiques, c'est important. Deux, les financements, parce que ça, ça coûte. Et on a besoin des financements. Ces financements doivent venir des entreprises comme celles qu'on a là, des mécènes qu'on n'a pas encore trouvés pour l'instant, je pense qu'ils vont venir bientôt, des institutions publiques, d'État, de gouvernement, un peu de toute la société civile. Mais après, on a aussi besoin, et ça c'est le troisième pilier qui est important, de la reconnaissance, de l'importance du code source, du logiciel, de notre patrimoine. Et ça, c'est le travail qu'on fait vraiment au jour les jours ensemble avec l'UNESCO pour rendre cet objet culturel qui est le code source noble, reconnu à niveau international.
Merci infiniment, Roberto Di Cosmo, d'être venu en direct pour partager justement cette initiative incroyable, phénoménale, essentielle. Je rappelle que nous sommes tous concernés et au fond tous contributeurs potentiels. Software Heritage, la grande bibliothèque universelle du code source, des logiciels disponibles. Le lien est évidemment sur notre site et vous revenez, Roberto Di Cosmo, nous en parler, nous dire où en est ce projet. Merci à vous.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, en compagnie de chercheurs de toutes disciplines. Autour de la question, la science rend-elle heureux? Réponses diverses et inspirantes à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tsikounas en coulisses. Merci de votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.